La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à vous Pascal de Thurins. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'université de Strasbourg, d'où vous nous joignez aujourd'hui en duplex pour nous parler d'un Gréco considéré par beaucoup d'écrivains, rien moins que comme un barbare. Racontez-nous ça.
Oui, alors un barbare, ça peut paraître étonnant de parler d'un grec en termes de barbare. Pour les Grecs, on le sait, les barbares, eh bien, c'est nous, hein, ce sont tous les autres. Mais... Alors, moi, je pense toujours à ces mots de Claudel qui écrit beaucoup sur la peinture espagnole du siècle d'or et plus particulièrement sur le Gréco. Alors, ce qui m'intéresse chez lui, chez Claudel, c'est quand il écrit que le message du Gréco, c'est celui de la contre-réforme, c'est-à-dire, eh ben, ça c'est Claudel qui l'écrit, il faut remettre droit le char penchant de la chrétienté. Alors, l'art là-devant... Et ce Gréco, écrit encore Claudel, ben ce Gréco, il n'y a qu'à regarder, eh bien, c'est le peintre de l'effort, ça n'est pas celui de la paix. Alors il donne comme exemple ce portrait assez unique en son genre d'Ignace de Loyola, en commentant d'une phrase et s'exclamant « Voici le conquistador de Dieu ». Alors, est-ce que pour autant le Gréco est devenu impossible à regarder aujourd'hui? On pourrait se poser la question. En tout cas, il est vu d'emblée de jeu comme l'artiste des exercices spirituels. Donc à la fois, comme tout exercice, spirituel ou non, il est à la fois roboratif, mais éprouvant, jusque dans ces couleurs dont on parlait il y a un instant. Alors, le plaisir en art, ah non, on n'est pas là pour ça. Ça, moi, ça me fait réfléchir. J'avoue que je suis sidéré, un peu inquiet devant le Gréco, de la joie, non, alors de la joie certainement pas, mais plutôt ce que l'on peut ressentir comme Cocteau, par exemple, qui écrit très bien sur le Gréco. Cocteau qui voit dans le Gréco un étrange étranger, et même, il le dit à plusieurs reprises, c'est un barbare, hein, c'est celui qui arrive à Tolède avec une vision énorme, une vision violente, et puis... Cocteau, là encore, dit ceci de très juste, c'est que Gréco, c'est l'inventeur d'une beauté laide. Alors, une beauté laide, c'est pas un jugement de valeur, puisque Cocteau conclut en disant que cette beauté laide, il l'a faite noble par amour. Il y a quelque chose de fascinant, là.
Est-ce que vous diriez, Pascal de Thurins, que cette beauté, il l'aime vraiment? Ou est-ce qu'il y a autre chose de plus intéressant, de plus important pour lui que la beauté?
Oui, je me suis longtemps posé la question, et comme tout le monde d'ailleurs, hein, est-ce qu'un peintre pourrait être incapable d'aimer la beauté du monde? Enfin, moi qui ne suis pas peintre, mais qui passe mon temps avec eux, c'est une question qui est récurrente.
Ça vous angoisse, on dirait.
En tout cas, ça m'inquiète. Pour revenir au Gréco, est-ce qu'il a seulement aimé la beauté, ou bien est-ce qu'il y a eu pour lui autre chose de plus précieux que la beauté à révéler?
Comme quoi, par exemple?
Alors, il y a un mystère, il y a vraiment quelque chose de déconcertant dans cette œuvre. On sait, par exemple, qu'il veut repeindre les fresques de la chapelle Sixtine. Hein, alors, ce n'est pas seulement parce que sur ces fresques, il y a des nus indécents, mais parce que Michel-Ange manque de couleur. Il ne sait pas peindre la carnation humaine, ça c'est ce qu'écrit le Gréco. Hein. Il dit, je crois, je cite de mémoire, à propos de Michel-Ange, c'était un homme bon, mais qui ne savait pas peindre. Pour répondre à ça, simplement se souvenir de ce que les écrivains ont dit de ce peintre hors du commun. Pensez par exemple à quelqu'un qui est un grand critique d'art, hein, comme Théophile Gautier.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire sur Gautier, puis aussi sur Maurice Barrès, dont je crois que vous voudriez nous parler, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, ce qu'il disait du Gréco?
Ah mais oui, alors ça c'est très intéressant pour Théophile Gautier. Théophile Gautier écrit en 1843 un voyage en Espagne. Évidemment, il parle de Tolède. Et à Tolède, Théophile Gautier voit dans le Gréco un peintre génial. Ça, c'est l'adjectif qui revient souvent. Mais, dit-il, il est génial, mais il souffre de problèmes oculaires. Et même, il est atteint de folie. Et la preuve, dit Théophile Gautier, c'est que l'œuvre du Gréco porte partout la trace d'une dégénérescence picturale. Je le cite alors. Mais je crois que l'un des textes les plus beaux et les plus profonds, surtout sur cette œuvre, et ça permet de poser la question de la fascination, c'est le texte que Maurice Barrès lui consacre en 1911 et qui s'intitule, c'est un beau titre de roman, Gréco ou le secret de Tolède.
Alors dites-nous un petit peu, parce que l'horloge tourne, de quoi il retourne.
Alors, il y a un secret pour Barrès, c'est que Gréco, c'est celui qui a rompu avec le pittoresque, avec le paganisme sensuel de Venise et de Rome. Alors Tolède, c'est autre chose. Le Christ en croix, celui qu'on voit au Louvre, là, ça n'est pas seulement la passion, c'est vraiment le ciel qui se déchire, c'est le ciel qui crie. Et là-devant, pour Barrès, eh bien, la splendeur, la douceur, les larmes n'ont pas leur place. À Tolède, écrit Barrès, à Tolède, on ignore la beauté aimée pour elle-même, comme l'aime l'Italie.
Merci beaucoup, Pascal de Thurins. On aurait pu parler aussi d'Elifort, de Malraux, et même du côté des écrivains grecs de Kazan Tsakis. Je renvoie aux auditeurs à ce sujet sur tout ce qui a été publié, et notamment ce que vous avez pu en dire. Merci, Pascal de Thurins. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université de Strasbourg, que vous vous intéressez donc notamment au lien entre peinture et littérature. Votre dernier livre, L'émerveillement de la présence dans la poésie et l'art moderne, apparu cette année aux éditions L'Atelier Contemporain.